Bonsoir véritablement, Lucille Como.
Bonsoir Arnaud, je vous ai interpellé
tout à l'heure, vous m'avez fait un signe pour me répondre que vous n'aviez pas encore vu ce mystère Jérôme Bosch. Mais par contre, parce que votre esprit est plein de questions, nos auditeurs le savent,
oui.
À quoi sert
surtout
le prix
sur les arts plastiques.
À quoi sert le prix Marcel Duchamp, Lucille?
Alors le prix Marcel Duchamp, déjà c'est une distinction qui a été créée assez récemment, en 2000, à l'initiative de collectionneurs français et de l'ADIAF. Alors l'ADIAF, c'est l'Association pour la diffusion internationale de l'art français. Le prix est remis tous les ans pendant la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, dont la dernière vient de s'achever le 23 octobre dernier. Cette année, le prix Marcel Duchamp est revenu à Kader Attia, qu'il avait manqué de peu puisqu'il avait déjà été en finale en 2005. Kader Attia est un artiste français qui réside et travaille surtout aujourd'hui entre Berlin et Alger, qui a commencé par la photographie. Aujourd'hui, il réalise toujours des photographies, mais surtout des installations, mais aussi des dessins. C'est un artiste qui est travaillé par la question postcoloniale, par la rupture entre les deux rives de la Méditerranée. Il a une autre actualité en ce moment, puisqu'il vient d'ouvrir ces derniers jours un restaurant et un lieu de débat baptisé La Colonie, le mot est barré, à côté de la Gare du Nord à Paris. Alors, à quoi sert le prix Marcel Duchamp? Déjà, pour l'artiste, ça sert à gagner de l'argent, à être soutenu pour une œuvre future. La dotation, c'est quand même 35 000 euros. Et par ailleurs, la DIAF s'engage à participer à un projet à hauteur de 30 000 euros. Ça sert aussi à être reconnu à un moment de grand raout international sur la scène de l'art contemporain. Et puis enfin, ça sert à représenter la France dans un contexte délicat pour le marché de l'art français. On a reproché cette année à la directrice et commissaire de la FIAC, Jennifer Flay, la présence indigente, selon certains, des galeries françaises dans la grande allée la plus en vue de la FIAC. Elle s'est défendue de ce reproche, notamment en reconnaissant que la France de l'art contemporain n'était pas au mieux de sa forme et qu'il était plus juste, selon elle, de réserver ses places à des galeries plus créatives. Le prix Duchamp et l'exposition qui va avec est donc un moment aussi de valorisation de la création nationale. Alors parlons-en justement de cette exposition des finalistes. Pour la première fois, elle a eu lieu non pas à la FIAC mais au Centre Pompidou, renforçant le rôle de l'institution dans l'organisation et le choix des artistes et resserrant les liens entre la DIAF et l'institution publique. On peut se demander si ce rapprochement n'est pas aussi un des symptômes de la course effrénée que le Centre Pompidou mène depuis quelque temps au financement privé. Bref, il y a bien des enjeux derrière ce prix Duchamp et pas seulement pour les artistes.
Alors, on va essayer d'en connaître un peu mieux certains de ces enjeux. Utilité du prix Marcel Duchamp. Sandra Dangoralé, vous vous lancez?
L'utilité, évidemment, c'est une entrée peut-être plus rapide déjà dans les collections publiques. C'est une notoriété qui est très institutionnalisée tout d'un coup pour l'artiste. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. J'aime bien moi l'idée que les quatre artistes cette année finalement soient exposés ensemble. Il y a une forme de dialogue. En plus, il y a un commissaire. Qui fait cette exposition et qui relie les œuvres autour de cette question du rituel, de la mort. Je trouve que c'est assez intéressant que les quatre soient montrés ensemble.
C'était le cas auparavant, mais c'était dans le cadre de la FIAC.
Il y avait un espace réservé au prix Marcel Duchamp. Mais là, c'est sur un espace beaucoup plus grand.
Marcel Duchamp.
C'est un espace beaucoup plus grand, puisque auparavant, donc, le lauréat gagnait une exposition au Centre Pompidou dans l'espace 315, et maintenant, les quatre nominés sont montrés à la Galerie 4, qui est beaucoup plus grande, parce que je crois qu'elle fait 600 mètres carrés.
Alors que 315 fait 315 mètres carrés.
Exactement.
D'où son nom. C'est bien trouvé. Non, il faut le rappeler, parce que on ne vient pas toujours avec un décamètre visiter les expositions. Harry Bellé, qui se rapproche toujours du micro. Heure et malheur du prix Marcel Duchamp, son évolution, il est vraiment inscrit dans le paysage, c'est certain. Les nominations sont toujours un moment de surprise aussi. Il y a des enjeux divers qui agitent ce prix.
Pas tant que ça.
Non.
Non. Alors j'en suis désolé parce que c'était c'est bien de faire des choses. La DIAF fait un boulot remarquable, présidée par Gilles Fuchs, qui est un collectionneur plus qu'actif. Mais j'avais eu l'occasion de discuter avec lui un peu avant la création du prix. Il avait le privilège de l'âge, encore une fois. Et je lui avais dit, mais est-ce que vous envisagez de travailler, parce que le modèle, c'était le Turner Prize, le prix Turner qui est attribué chaque année à la Tate. Et le prix Turner est vraiment, alors là, médiatiquement, à quelque chose de fantastique. C'est retransmis sur Channel 4, la télévision, une télévision britannique. Il y a une vraie. Il y a même des bookmakers qui prennent des paris.
On prend des paris surtout en Angleterre. Donc
on prend des paris surtout, mais ce qui est intéressant, c'est que les bookmakers se trompent rarement. C'est-à-dire qu'on peut à peu près avoir une idée de qui va avoir le Turner Prize, simplement en suivant l'évolution des cotes, parce que il y a un peu de côté, quand même, un petit peu course de chevaux. Hein, qui est,
vous voulez commenter sur le Turner Prize, Sandra?
Seulement avec entre le prix Turner, par exemple, et le prix Marcel Duchamp, c'est que le prix Turner, il y a un vote du public, ce qui n'est pas le cas.
Ah oui?
Pour le prix Marcel Duchamp.
Ah, très bien. Et c'est une proportion, c'est comme l'Eurovision, quoi. Il y a un peu de public, un peu de jury, comment ça passe?
Il y a un public et ensuite, il y a un jury, évidemment, des grands professionnels de l'art, ensuite. Mais en tout cas, la première sélection, c'est le public qui l'a fait, ça je trouve.
Sur des propositions qui n'appartiennent pas au public quand même. C'est pas eux qui
font une liste. Le public réduit la liste et les professionnels choisissent dans cette liste réduite. Mais je ne le savais pas.
Mais en tout cas, ça a une diffusion. C'est des rockstars, les artistes contemporains. On les trouve même dans les tabloïds quand ils sont un peu connus au bout d'un moment. On a presque plus d'articles dans les tabloïds britanniques sur Tracy Emin ou des artistes de cette génération que dans les journaux dits sérieux. Et donc, c'est une visibilité médiatique que le prix Marcel Duchamp a toujours refusé d'avoir. Ça, c'était déjà la volonté de Gilles Foulkes à l'époque. Il voulait pas que ce soit une foire. Enfin, une foire. Ce truc de Saltava. Il voulait pas que ce soit
le bazar.
Voilà. Merci.
Mais le voudrait-il, le serait-ce?
Et je ne sais pas.
Est-ce que ça passionnerait vraiment les foules françaises?
Je ne sais pas. Pourquoi?
Est-ce que Kaderatia va être dans Oops ou dans Closer?
Mais je ne sais pas si ça fonctionne. En Grande-Bretagne, pourquoi ça fonctionnerait pas en France? Je comprends pas le désintérêt total la radio-télévision diffusion française pour l'art contemporain, alors que ça passionne
c'est
réellement.
C'est bien que vous disiez ça dans un micro de la radio-diffusion française. Hein.
Alors que ça passionne totalement. Y a pas d'émission de télé sur l'art en France. Il y en a 3 en Angleterre. Comment pas? Mais bon, après tout, ils doivent savoir ce qu'ils font. Voilà. Bon, pour le reste, pour les artistes, ça doit être un choc terrible. D'ailleurs, je pense que j'en reparlerai au moment où je vais évoquer le cas de Théo Mercier, que d'être dans cette espèce de course à l'échalote et de se demander qui va l'avoir. Sans compter que, comme dans tous les prix, et ça depuis, par exemple, l'attribution du Grand Prix de la Biennale de Venise, qui a maintenant un peu plus d'un siècle d'existence, on a la même chose. Des groupes de pression, des lobbies, des machins. Bon, est-ce que c'est si important que ça? J'en suis pas certain. Mais c'est toujours bien d'avoir une expo, même dans 315 mètres carrés, au centre Pompidou.
Ouais, et puis la liste est quand même plutôt belle. Si on regarde depuis la création du prix Marcel Duchamp, il semble qu'il y ait quand même plutôt de bons choix, enfin, avec le plus d'objectivité possible quand on dit une chose pareille. Mais peut-être revenir sur une incise de cette chronique de Lucille Comeau. Les galeries françaises en petite forme cette année, est-ce que vous avez pas parcouru assez les salons de la FIAC, Sandra Dancorallet, pour vous exprimer sur ce sujet?
Je l'ai parcouru, évidemment, peut-être un peu trop rapidement pour faire cette analyse aussi fine.
Alors, Harry qui construit les stands quasiment.
oui, je plante les clous. Oui. Non, les galeries françaises, elles marchent très bien. Enfin, pas toutes, hein. Les galeries en général sont en très grande forme quand elles sont puissantes et beaucoup moins quand elles débutent. Ça ferme à peu près aussi souvent que ça ouvre. Les galeries françaises sont pas différentes des autres. Elles font même plutôt du très très bon travail. Il y en a encore une qui vient d'ouvrir un espace à Londres, ce qui prouve qu'elles savent s'internationaliser. Exact. Donc non, les galeries françaises sont pas en cause. Simplement, le vœu de Jennifer Flake, qu'on le déplore ou qu'on le salue, c'est que sa foire soit internationale. Je crois qu'il y a 24 ou 25% de galeries françaises à la FIAC. C'est à peu près la norme dans une foire internationale d'avoir à peu près cette proportion de galeries nationales. Il y en a un peu moins à Bâle de galeries suisses. Beaucoup moins d'ailleurs. Un peu moins à Frise de galeries anglaises. Donc ça, c'est un faux procès. Par contre, qu'il soit assez mal géographiquement localisé, c'est vrai. C'est pas la première fois. Daniel Templon en était assez vigoureusement plein l'an passé. C'est aussi un choix de la directrice de la FIAC de considérer qu'on invite des gens qui viennent de loin, on leur donne la place d'honneur. Bon.
Un commentaire,
en tout cas, la presse française parle beaucoup, beaucoup de ça. C'est vraiment la question de la représentation des galeries françaises dans la FIAC. C'est vraiment la question.
Oui, pas se retrouver dans un coin, mais plutôt dans la magnifique allée centrale.
Les
Champs-Élysées de la FIAC.
Le meilleur emplacement de la FIAC, c'est à côté des toilettes. Tout le monde le sait. Enfin, voyons, tout le monde y va.
Ou du bar.
Ça, il y en a trop.
Bon. Et je voulais juste souligner la notoriété en parallèle de d'autres foires, d'ailleurs, que tout le monde fait en même temps que la FIAC, comme Paris International.
Bien sûr.
Voilà,
qui s'affirme. Hein,
on a, qui s'affirme, on a évoqué et tous dernière. Les gens qui vont à la FIAC vont aussi voir Paris International. Ça, c'est à noter peut-être aussi.
Absolument.
Ce développement parallèle.
Je voulais même pas demander votre sentiment personnel sur le choix de Kader Attia parmi les finalistes.
Non, je peux pas vous en parler, c'est un copain.
Bon, écoutez, c'est une réponse comme une autre. Sandra, d'en aller par rapport
à... Non, moi j'aime beaucoup, c'est un artiste alors que je connais aussi, donc je vais pas m'étaler, mais que j'aime beaucoup. Très engagé, je trouve que c'est bien.
Un beau choix.
C'est un beau choix.
Et puis un homme capable d'ouvrir un restaurant rue Lafayette ne peut pas être tout à fait mauvais.
D'accord, ce sera le mot de la fin de ce petit salon.